Bonsoir, bienvenue au Collège supérieur. Vous avez remarqué, pour ceux qui sont habitués, que les murs sont un peu plus colorés qu'à l'accoutumée. Ils sont mis en feu par l'œuvre picturale d'un peintre qui s'appelle Damon, qui est originaire de Blois, dont l'œuvre bénéficie d'une large reconnaissance mondiale, puisque il expose à Paris aussi bien qu'à New York, Rio, Tokyo, que sais-je, Formose. Et donc je suis très heureux que cette œuvre vienne ici nous regarder. En particulier, je suis très heureux qu'il y ait une représentation du combat de Jacob avec l'ange. Vous savez que le combat de Jacob avec l'ange est une des métaphores que Malraux a prises pour traduire la quête de l'artiste et la quête d'absolu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, Jacob se trouve au bord d'un ruisseau où un homme l'arrête, voulant l'empêcher de franchir ce ruisseau. S'ensuit un combat qui dure toute la nuit contre cet inconnu et à l'issue duquel Jacob a la hanche brisée. Et Jacob demande le nom de cet inconnu qui le lui refuse et qui lui dit « Mais toi, tu t'appelais Jacob, désormais tu t'appelleras Israël. » Et donc c'est là que... avec ce nom d'Israël, il lui est rappelé qu'il a combattu Dieu, puisque Israël, ça veut dire celui qui a combattu Dieu. Et donc, c'est pour nous, c'est une bonne manière d'évaluer sur le plan symbolique, intuitif, ce qu'est aussi la philosophie, au fond, comme quête de l'absolu, et puis une quête dont on ne sort jamais tout à fait indemne, on en sort un peu boiteux. Mais en même temps, donc, ce ruisseau qu'il faut franchir, cet inconnu contre lequel il faut lutter, qui est l'ange ou Dieu, en tout cas, celui qui met la liberté au défi, c'est celui qui illustre donc notre quête, que ce soit celle de l'art ou celle de la philosophie. Parmi les informations, vous n'oubliez pas de repartir avec vos cahiers du collège. Ces cahiers ont une importance particulière parce que vous y trouverez dans la double page intérieure le projet de renouvellement, refondation, développement du collège supérieur auquel vous êtes associé, puisque le collège supérieur c'est vous. Vous pouvez prendre connaissance de nos projets et puis vous pouvez aussi concevoir la manière dont vous pouvez prendre part à ce projet. La question qui nous réunit ce soir est donc une question très scolaire, c'est une question de sujet de bac. Un acte libre, est-ce un acte imprévisible ? Mais chacun le sait, les sujets de bac, c'est la philosophie par excellence. Il n'y a pas en philosophie de sujets nobles et de sujets vils. Les sujets sont rigoureusement les mêmes au baccalauréat et à l'agrégation. En mathématiques, c'est pas tout à fait vrai. Les sujets ne sont pas les mêmes au baccalauréat et à l'agrégation. Mais en philosophie, les sujets sont rigoureusement les mêmes. Quand j'ai passé l'agrégation de philosophie, j'ai eu pour sujet science et philosophie. En terminale, j'ai eu pour sujet science et philosophie. Et pourquoi ? Parce que les questions philosophiques restent les mêmes. Quel que soit le niveau de culture dont on dispose, quel que soit l'âge auquel elles se posent, et quelle que soit l'époque dans laquelle elles se posent, les questions de la philosophie ont la particularité d'être toujours des questions présentes parce qu'elles sont éternelles. C'est bon à méditer pour notre soirée où nous allons sans doute déployer quelques réflexions sur la question du temps. Un acte libre, est-ce un acte imprévisible ? Élection. Derrière le rideau de l'isoloir, chacun est, et c'est ce qu'exprime bien ce rideau, souverainement libre. Chacun vote en conscience, peut-être même selon son caprice, peut-être même selon l'humeur du moment ou la photo des candidats. Mais enfin, une fois le rideau tiré, on considère, et c'est ce qu'exprime bien l'isoloir, que chaque conscience est souveraine. Cependant, les résultats des élections sont parfaitement prévisibles. Ils sont même tellement prévisibles qu'ils sont annoncés au moment de la clôture du scrutin, ce qui est quand même un comble. Et que cette annonce peut se faire parce que les résultats sont éprouvés sur un échantillonnage sociologique suffisamment pertinent pour pouvoir prévoir l'issue du scrutin. Devant un tel exemple, on est tenté de se dire qu'en est-il alors de la liberté et qu'en est-il de l'acte individuel par lequel quelqu'un met un bulletin dans l'urne, acte qu'il croit souverainement libre, bien que la somme soit parfaitement déterminée. Et dans cette somme, donc, la liberté du sujet apparaît facilement comme une illusion. Il croit être libre, mais en fait, il est mu par des lois sociologiques. La preuve en est que, avec ces lois sociologiques, on se met en mesure de prévoir sans faille le résultat. Donc, l'idée même de prévisibilité semble mettre à mal l'idée de liberté comprise comme capacité souveraine de choix. Oui, mais supposons à l'inverse que le résultat des élections soit tout à fait imprévisible. Supposons à l'inverse que le résultat des élections soit tout à fait aléatoire et que chaque vote soit en effet irréductible dans sa singularité, dans sa particularité. Comment, dans ce cas-là, pourrait-on dire des élections qu'elles dégagent une volonté populaire, qu'elles dégagent une majorité, qu'elles ne peuvent permettre d'orienter une politique, si au fond les résultats pouvaient être différents d'une heure à l'autre? Car si, à proprement parler, les résultats des élections étaient imprévisibles, ça voudrait dire que si l'élection avait eu lieu une heure avant ou une heure après, le résultat eût été différent. Et à ce moment-là, le caractère aléatoire, imprévisible du résultat, ruine le rôle même des élections, qui est de mettre au jour une cohérence, des motivations pour l'action. D'ailleurs, ces élections, non seulement elles sont sans doute prévisibles, mais au sens statistique du mot, mais elles sont même prévisibles au sens politique du mot. On suppose bien, par exemple, que s'il y avait un scrutin ce soir, M. Hollande aurait moins de voix qu'en mai dernier. C'est prévisible. Un peu de bon sens nous laisse penser que c'est prévisible. Et donc, lorsque un historien dit « Louis XVI, ayant augmenté les impôts, a provoqué le mécontentement du peuple », d'une part, il rend compte d'un événement singulier, mais d'autre part, il suppose une loi sous-jacente, implicite. Qui augmente les impôts provoque le mécontentement. On pourrait dégager une loi générale, de telle sorte que je peux être assuré que, sauf une politique de communication vraiment habile, si j'augmente les impôts, il y a une très forte probabilité pour que j'augmente le mécontentement. Donc non seulement il y a des lois sociologiques, mais il semble bien qu'il y ait des lois historiques, au sens où une loi, c'est ce qui relie deux événements de telle sorte qu'elle permette une prévision. Et ces lois semblent être en même temps donc la condition même de l'exercice de la liberté dans un monde sensé. Considérons un autre exemple. Ce soir, on va démarrer avec des anecdotes. Un observateur est situé à l'intersection de deux routes. Il voit sur ces deux routes deux automobiles qui foncent à la rencontre l'une de l'autre. Cet observateur, de son point de vue, peut prévoir la collision vers laquelle les automobilistes foncent en aveugle. Et il peut la prévoir exactement comme on peut prévoir le choc de deux boules de billard. Et les deux véhicules avancent comme avanceraient deux boules de billard à leur collision. Et donc les boules de billard régies par les lois de la mécanique subissent la même prévisibilité, font l'objet de la même prévisibilité que les deux voitures qui foncent. Oui, mais cet apologue nous met devant une autre question, un autre registre de questions, c'est que la question de la prévisibilité, au fond, elle se pose pour un observateur. Est-ce prévisible ? C'est une question d'observateur. C'est pas vraiment la question des automobilistes, qui, eux, n'ont pas sur leur acte un point de vue surplombant. Et d'ailleurs, si nous étions dans un film, alors, lorsque nous sommes spectateurs d'un film, nous sommes en quelque sorte cet observateur. Le metteur en scène va nous faire un montage en parallèle, nous montrant la voiture rouge qui fonce, la voiture bleue qui fonce, la voiture rouge qui fonce, la voiture bleue qui fonce, la voiture rouge, montage en parallèle. Et nous, mis dans la position de l'observateur, nous ne prévoyons pas la collision exactement comme on prévoit le choc de deux boules de billard. Car nous sommes haletants, nous sommes inquiets. Et nous disons « Ah !» pourvu qu'il ne se heurte pas. Et donc au moment même où nous sommes dans un récit, c'est la différence entre un récit et une expérimentation. Au moment même où nous sommes dans un récit, à chaque flexion de ce récit, tout semble possible. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons être dans une inquiétude, c'est la raison pour laquelle nous pouvons bénéficier des effets de ce suspense qui résulte du montage en parallèle. Et c'est ce qui fait que dès que nous nous trouvons dans une situation de récit, nous sommes devant l'imprévisible. Le raconter, c'est reconduire l'événement à sa contingence. Si bien que lorsque je regarde un film sur Jeanne d'Arc, je me dis « Jeanne d'Arc sera-t-elle brûlée ?» Et je déteste le gars qui lui tape du coude et qui me dit « Tu vas voir, ils vont la brûler. » La condition même d'un récit, c'est d'épouser une temporalité qui est celle de l'attente qui ménage la possibilité de la surprise. Comment ça se fait ? Je sais, Jeanne d'Arc sera brûlée. Mais comment se fait-il qu'au moment même où je rentre dans un récit, je me remette toujours dans la position de la contingence irréductible de l'événement, la même où, cependant, la suite est apparemment connue. Je reprends mon apologue des deux automobiles et des automobilistes. Car dans les automobiles, il y a des automobilistes. Certes, les automobiles, de ce fait, ne sont pas tout à fait des boules de billard. car les automobilistes, ils savent qu'ils vont à la rencontre d'une intersection et ils se demandent, n'y aura-t-il pas une voiture qui va surgir à gauche, n'y aura-t-il pas une voiture qui surgira à droite? Ils sont eux aussi dans une disponibilité à un éventail de possibles qui leur font lever le pied ou accélérer selon les choix, regarder à gauche ou regarder à droite. Les automobilistes ne font pas preuve de prévision, mais au moins, espérons-le, de prévoyance. Prévoir a donc deux sens. Faire une prévision, exercer une prévoyance. Et ces deux sens, donc, il sera nécessaire de les discerner, de distinguer entre eux pour, justement, avoir l'intelligence de ce qu'est notre liberté. Nous détestons le point de vue surplombant de l'observateur. C'est pourquoi nous n'aimons pas Dieu. Enfin, nous n'aimons pas Dieu si nous l'imaginons comme, justement, cet observateur aux yeux duquel tout devient destin. L'œil était dans la tombe et regardait Cain. À ce moment-là, cet observateur épingle chaque singularité comme un papillon dans un musée et fait que notre liberté devient dérisoire. L'idée de prévision comme point de vue surplombant de l'observateur, effectivement, on comprend qu'elle puisse faire difficulté pour une liberté. En revanche, l'idée de prévoyance comme anticipation probabilitaire, hésitation et décision semble bien être ce qui caractérise de la manière la plus juste l'exercice de la liberté. L'observation de la liberté, l'exercice de la liberté. Toute liberté observée est susceptible d'une analyse déterministe. Toute liberté vécue est irréductible à une analyse déterministe. Ce sera ma conclusion. Donc, vous pouvez partir si vous voulez. Vous avez la conclusion. Je ne sais pas si vous la reconnaîtrez à la fin. Le plan que je vais suivre est le plan le plus simple qui puisse s'imaginer. Première partie, le passé. Deuxième partie, le présent. Troisième partie, l'avenir. Vous voyez, vous avez anticipé. Première partie, le passé, et on dira le prévoir, avec une affirmation, prévoir, c'est reconduire le passé. Deuxième partie, le présent, avec une affirmation, décider, c'est dessiner des probables. Troisième partie, l'avenir, avec une affirmation, l'acte est neuf. Premièrement, le passé, prévoir, c'est reconduire le passé. Posons-nous la question, pourquoi diable cherchons-nous à prévoir? Pourquoi prévoir? À quoi tient d'ailleurs ce singulier plaisir que nous pouvons avoir, même comme observateur? La prévision réussie. Ce qui fait que mon observateur, à l'intersection, quand les deux automobiles vont rentrer en collision, il sera content. J'y avais parié. J'en étais sûr. On peut dire que la nécessité où nous sommes de prévoir tient à ce qu'il nous faut échapper au cauchemar. Que serait le perpétuel surgissement de quelque chose de différent? Heureusement qu'il n'y a pas, à chaque instant, quelque chose d'indifférent, de différent et d'imprévisible. Heureusement que, justement, il peut en être fait un récit. Voilà pourquoi, vous le savez, les récits de rêves sont les choses les plus barbantes qui soient. Les gens qui nous racontent leurs rêves nous ennuient. Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un rêve. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à attendre, tout peut se passer. Quand tout peut se passer, j'anticipe pas. Donc on me dit, et alors là, à la place de la concierge, j'ai vu un hippopotame. Je dis, ah ouais. Ce n'est pas particulièrement étonnant, puisque de toute façon, tout était possible. On m'aurait dit à Tour Eiffel que c'était pareil. Et le... Si bien que le temps est la chose du monde la plus facile à définir, puisque le temps, c'est l'alliance du changement et de l'identité. Pour que quelque chose change, il faut qu'il reste identique. Sinon, on ne dira même pas qu'il a changé. On dirait qu'il est autre chose. Mais on ne dirait même pas qu'il est autre chose. C'est-à-dire qu'il est autre chose, c'est encore postuler son identité. Et donc, quand mes amis me disent « t'as pas changé, toi », ce qui est une certaine manière de me faire comprendre qu'ils avaient de la peine à me reconnaître, ils peuvent le dire parce que, effectivement, bien que mes traits se soient altérés, plissés, froissés, défigurés, ils me reconnaissent et il y a la postulation d'une identité. Nous ne changeons que parce que nous restons le même. Et donc, le temps, c'est ce qui nous permet de nous assurer que un objet dans ses différentes occurrences est bien le même. C'est le problème du gardien de but. Quand le ballon arrive, il faut qu'il ait le temps de se demander est-ce bien le même que celui que j'ai vu partir ? Il doit faire vite. Et donc, le changement de position du ballon est prévisible, et souhaitons-le pour le gardien de but, parce que le gardien de but fait le pari que le ballon qui arrive est le même que celui qui est parti. Et que donc il y a un changement parce qu'il y a une permanence. C'est le problème que Hume a soulevé avec sa sagacité habituelle. Hume est le meilleur compagnon des philosophes. Puisque Hume dit, je rentre dans une pièce où je vois un feu, je reviens dans cette pièce, déjà je reviens, de toute façon c'est fichu, il y a déjà du temps. Je reviens dans cette pièce, je vois un tas de sang. Qu'est-ce qui me dit que ce feu est devenu tas de cendres ? Alors qu'entre les deux, j'ai une élision. Entre les deux, j'ai une parenthèse. La question de Hume est très profonde. À quoi tient que nous postulions l'identité des objets dans des états différents ? La réponse qu'apporte Hume est un peu psychologique, mais elle est assez éclairante. La réponse de Hume, c'est qu'il nous faut nous tirer de l'uneasiness. Il nous faut nous tirer du malaise que nous éprouverions si le monde était instable. Et si, à tout moment, toute chose perdait son identité. Donc, pour nous sauver de l'instabilité, pour nous sauver du cauchemar, donc, du rêve même, de toute façon, tout rêve est un cauchemar, pour nous sauver de l'instabilité, il faut donc d'urgence croire à la permanence, c'est-à-dire à la possibilité de ramener le divers de l'expérience à l'unité. Ou plutôt, faire une expérience, c'est ramener le divers à l'unité, comme rentemplant. J'ai déjà vu ce cow-boy quelque part. Et le malheureux rentemplant serait complètement humien si, à chaque fois, il croyait voir un nouveau cow-boy. Si vous ne connaissez pas la référence à rentemplant, je ne peux plus rien pour vous. Hâtez-vous de vous reporter au classique. Voilà. Faire une expérience, c'est rapporter le divers à l'unité. Telle est la source, selon Hume, de de l'idée de causalité. Qui permet précisément de faire des prévisions. Le soleil se lèvera demain. Le soleil se lèvera-t-il demain? C'est la question classique. Du fait que je suis en présence de la contingence, rien ne me permet d'assurer la nécessité théorique que le soleil se lève demain. Cela n'a rien de nécessaire, et en ce sens, il est bien vrai que chaque matin est nouveau. Et alors, la réponse de Hume, c'est que ce qui nous sauve de l'onésiness, c'est l'habitude. Puisque c'est l'habitude qui nous permet de penser le temps sous forme d'une succession où il y a simultanément changement et identité. Donc, d'une succession prévisible. Et j'attends assez paisiblement que le soleil se lève demain, parce que j'en ai l'habitude. C'est une réduction assez psychologique, mais qui a l'intérêt de nous montrer que l'habitude, c'est justement ce qui nous sauve de l'onésiness. C'est ce qui nous sauve du malaise. Un monde où tout changerait, de toute façon, ne serait même pas un monde. Pour qu'un monde soit un monde, il faut qu'il soit habitable. Et pour qu'un monde soit habitable, il faut qu'on puisse y loger une habitude. Et l'habitabilité du monde est liée donc à la capacité que nous avons à ramener l'univers à l'unité. Or, nous dit Hume, les conduites humaines sont aussi prévisibles que les phénomènes physiques. Et il n'y a pas de raison de faire exception pour les conduites humaines. C'est ce qu'il développe dans le traité sur les passions. Il y en a des qui disent que l'homme est libre. À cette objection, je réplique que pour juger des actions humaines, il nous faut procéder selon les mêmes maximes que dans nos raisonnements qui portent sur les objets extérieurs. Quand des phénomènes sont constamment et invariablement conjoints les uns avec les autres, ils acquièrent une connexion telle dans l'imagination qu'elle passe de l'un à l'autre sans marquer ni doute ni hésitation. Plus loin, Un prisonnier qui n'a pas d'argent et qui ne présente aucun intérêt pour son geôlier, découvre l'impossibilité de s'évader aussi bien dans l'inflexibilité de ce dernier que dans l'épaisseur des murs et des barreaux qui l'entourent. Et s'il tente de recouvrer sa liberté, c'est encore à la pierre et à l'acier qu'il préfère s'attaquer plutôt qu'à l'inflexible nature du gardien. Ce qu'il y a de bien dans Hume, c'est que dans chaque page, il y a un sourire. Ce même prisonnier, conduit à l'échafaud, prévoit sa mort aussi certainement d'après la constance et la loyauté de ses gardes que d'après l'action de la hache ou de la roue. Son esprit parcourt une suite déterminée d'idées, le refus des soldats de consentir à son évasion, l'action du bourreau, la décollation, l'hémorragie, les mouvements convulsifs, la mort. Cet enchaînement est constitué de causes naturelles et d'actions volontaires, reliées les unes aux autres, mais l'esprit ne sent aucune différence entre elles lorsqu'il passe d'un maillon à l'autre. Et il n'est pas moins certain de l'avenir que si l'événement futur était relié aux impressions présentes de la mémoire et des sens par une suite de causes solidaires les unes des autres par une nécessité physique. La nécessité d'une action, qu'elle soit celle de la matière ou de l'esprit, n'est pas une qualité située dans l'agent, mais plutôt dans un être pensant ou intelligent susceptible de considérer l'action. Le voilà, notre point de vue de l'observateur. cette question qui fait que les conduites des hommes, par exemple l'inflexibilité des gardiens si je suis trop pauvre, sont parfaitement prévisibles, et que l'inflexibilité du gardien est plus résistante que ne le seront les barreaux. On l'a vu, donc cette question est celle que l'on peut parfaitement poser du point de vue de l'observateur. Si une prévision est possible, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que nous dit le principe du déterminisme. Car le principe du déterminisme nous dit que si je connais l'état d'un système, l'état postérieur de ce système est parfaitement prévisible, il n'y aura pas d'inédit, et au fond, l'état postérieur n'est que le déploiement, le dépliement de tout ce qui était contenu antérieurement. Et donc, du point de vue de la nécessité, au fond, il n'y a pas de temps. Si tout était déterminé, il n'y aurait plus de temps. Puisqu'il n'y aurait plus rien à attendre, l'état postérieur serait rigoureusement contenu dans l'état antérieur. Or, ce n'est pas tout à fait ainsi que nous vivons. Et, en effet, et ça sera mon deuxième point, pour nous, maintenant, moi qui suis en train de parler, par exemple, donc nous sommes à ce qu'il est convenu d'appeler le présent. Alors, il faut s'arrêter à une considération qui me semble tout à fait essentielle. C'est penser que, pour l'observateur, le temps est comparable à une ligne où des séquences se succèdent. Pour l'observateur. Donc, pour l'observateur, le temps commencerait à un moment zéro, à un T0 fixé. Pour l'observateur, le temps commence dans le passé. Mais pour nous, le temps ne commence pas dans le passé. Pour nous, le temps commence maintenant. L'origine du passé, ce n'est pas ma date de naissance, ça n'est pas la naissance du Christ, ça n'est pas l'origine du monde, ça n'est pas etc. L'origine du temps, c'est maintenant, car c'est à partir de maintenant que je déploie hier et que je déploie demain. Et donc, hier et demain n'existent qu'à partir du point de vue du sujet. La langue nous le montre bien d'ailleurs, car c'est la différence entre le temps de l'observateur qui nous dit la veille, le lendemain, et le temps du sujet qui dit hier et demain. Et pour le sujet qui dit hier et demain, à tout moment, hier et demain se redéploient, puisque hier, demain sera hier. Bon, aujourd'hui, demain sera hier. Demain, aujourd'hui sera hier. Et donc, si aujourd'hui, demain sera hier, ça veut dire qu'à tout moment, le temps se déploie à partir d'un point origine qui est le présent. Il faut donc casser cette image du temps comme un flux, une séquence, une ligne que l'on pourrait découper selon des régularités. Ça, c'est le temps tel qu'il est donné à l'observateur. Le présent, c'est donc la modalité de la présence. Le présent n'est pas une unité du temps. Car le présent n'a pas de durée. Je ne peux pas dire que le présent dure une seconde, une heure. Si je dis à présent, vous entendez quoi? Le 21e siècle? L'année 2013? Le 8 avril? 9 avril, vous entendez 21h quelque chose, non, le présent c'est le moment où je parle, c'est ce à partir de quoi je parle, c'est ce à partir de quoi j'agis. On dira donc que le présent c'est la modalité de la présence. Et alors ça, si l'on dit que le présent c'est la modalité de la présence, ça nous permet de comprendre encore mieux la réalité du temps. Le temps, c'est donc le rapport à soi de quelqu'un, d'un sujet, on va l'appeler un sujet. Le temps, c'est le rapport à soi d'un sujet qui est à lui-même une question. Que serais-je? Que vais-je devenir? Que dois-je faire? Etc. Et c'est dans la mesure où le sujet est à lui-même une question, dans la mesure où il éprouve une distance entre ce qu'il est et ce qu'il a à être, qu'il interroge le temps. Et s'il interroge le temps, s'il va y rechercher la clé d'une énigme, c'est parce que ce qu'il a à être, il a à l'être, excusez-moi, c'est hiatus, mais ils se comprennent facilement, ce qu'il a à être, il a à l'être dans une décision. Le présent, c'est le moment de la décision à partir duquel précisément se fait la flexion du passé et de l'avenir, disons plutôt de hier et de demain. C'est la raison. Alors, il y a une observation bien simple qui le justifie. Qui permet de le comprendre intuitivement, c'est que l'ennui, c'est précisément lorsque le temps ne se donne plus que sous la forme de l'écoulement successif. Le tic-tac de l'horloge. Et encore, nous entendons tic-tac. Alors que l'horloge, je vous le signale, fait tic-tic. Mais comme il faut bien qu'il y ait de la différence pour qu'il y ait de la répétition, on entend tic-tac. Ce qui déjà scande un peu notre ennui. Introduit un suspense en quelque sorte à l'intérieur même de cette expérience très du temps pleine de dérédiction. Et donc voilà, au moment où je décide, à tout moment, je suis au point de flexion d'une décision, c'est-à-dire qu'à tout moment, je me dis, vais-je écouter la retransmission du match Reims-OL ou continuer à préparer cette conférence? Ça vous dit le moment où je l'ai préparé. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de continuer à préparer la conférence parce que franchement, le match Reims-OL, on a entendu tic-tac. Ça, on a déjà eu l'occasion d'observer ici, parce que c'est quand même un des grands mystères que nous vivons. La condition pour parler, c'est de ne pas savoir ce qu'on va dire. Ça, c'est le grand mystère. Là, au moment où je vous parle, je n'ai rigoureusement aucune idée de la phrase qui va venir. Puisque parler, ça n'est évidemment pas déroulé du déjà pensé, ça n'est précisément pas déroulé un ruban. Vous non plus, vous n'avez aucune idée de la phrase qui va suivre. Mais si vous écoutez, c'est parce que pendant que vous écoutez, vous préfigurez intuitivement ce que ça va donner. Vous accompagnez mon effort. Vous dites, aïe, 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 là, il va se planter. Et donc, si vous comprenez parfois, c'est parce que les prévisions probabilitaires que vous avez faites, coup de peau, coïncident. Et là, vous vous sentez des gens. C'est pour ça qu'il faut offrir aux auditeurs l'occasion de se sentir intelligent en leur laissant suffisamment deviner ce qu'on va dire. La réalité du temps est donc mélodique. C'est ce que dit Bergson. C'est-à-dire que une mélodie me permet un certain nombre d'anticipations. Je me dis, ah, ça va faire... Une mélodie n'est pas une succession entièrement prévisible. Elle est une ouverture du temps à un horizon de possibilités, à un horizon de probabilités. Et puis, le génie est celui qui va m'apporter autre chose que ce que j'avais attendu, mais qui en même temps va confirmer cette attente. Bon, on ne s'arrêtera pas trop longtemps à cette analyse que je crois avoir déjà faite ici, mais cela veut dire que, comme le dit saint Augustin, donc le temps est fait de rétention et de protension, c'est-à-dire qu'il est fait d'attente et de surprise. Je ne sais pas quelle est la phrase qui va suivre. Nous attendons tous laquelle elle sera. Et surprise, il y en a une qui arrive. Et la dialectique de l'attente et de la surprise est entièrement mélodique, et c'est celle qui nous met dans le présent. Dans Humanisme et Terreur, Merleau-Ponty exprime ça avec son élégance et sa perfection habituelle. L'avenir n'est que probable, mais il n'est pas comme une zone de vide. Ma phrase qui va suivre n'est pas vide. Je ne sais pas laquelle elle est, mais elle n'est pas vide. Il n'est pas comme une zone de vide où nous construirions des projets immotivés. Il se dessine devant nous comme la fin de la journée commencée. Et ce dessin est nous-mêmes. Les choses sensibles, elles aussi, ne sont que probables, puisque nous sommes loin d'en avoir achevé l'analyse. Cela ne veut pas dire qu'elles nous apparaissent dans leur existence absolument en notre pouvoir. Ce probable est pour nous le réel. On ne peut le dévaloriser qu'en se référant à une chimère de certitude apodictique qui n'est fondée sur aucune expérience humaine. Si nos prévisions réussissaient, nous aurions une angoisse encore plus grande que le nésinès de Hume, car nous aurions plus du tout l'impression d'être dans le réel. Heureusement que nos prévisions échouent, car l'échec de nos prévisions, c'est ce qui atteste la réalité. Rappelez-vous comme vous êtes déçu quand vous avez précisément le cadeau que vous aviez commandé. Et là, tout d'un coup, la vie vous apparaît comme un destin. On a un cauchemar de l'imprévisible, vous voyez, mais on a un cauchemar bien pire, qui est celui de l'inévitabilité du destin et donc qu'est-ce que c'est que le réel? Eh bien précisément, c'est comme cette phrase dont je ne sais pas encore ce qu'elle est, c'est cet imperceptible écart entre mon geste et son aboutissement. C'est cet écart entre le geste et l'aboutissement qu'éprouve l'artiste, qu'éprouve le sportif, qu'éprouve le confus, que nous éprouvons tous. Et qui nous atteste que nous sommes dans le réel, ce qui n'arrive jamais dans le vrai. Et c'est cet écart qui est la temporalité elle-même. Donc le réel se donne dans cet écart qui ouvre la temporalité et qui ouvre la temporalité à partir du présent. Je continue de lire Maurice Merleau-Ponty dans Humanisme et Terreur. Ce probable est pour nous le réel. On ne peut le dévaloriser qu'en se référant à une chimère de certitude apodictique qui n'est fondée sur aucune expérience humaine. Ce n'est pas tout est relatif qu'il faut dire, mais tout est absolu. Si vous repartiez ce soir simplement avec cette phrase, je vous aurais rendu service. Je la répète. Ce n'est pas, là voilà moi une phrase dont vous pouvez deviner laquelle est ça. C'est pas ça. Ce n'est pas tout est relatif qu'il faut dire, mais tout est absolu. Le simple fait qu'un homme perçoit une situation historique investie d'une signification qu'il croit vraie introduit un phénomène de vérité dont aucun scepticisme ne peut rendre compte et nous interdit d'éluder les conclusions. la contingence de l'histoire n'est qu'une ombre en marge d'une vue de l'avenir. Dans le présent, si tout est absolu, comment comprendre l'expression de Merleau-Ponty « tout est absolu » ? Précisément parce que si le présent, c'est ce à partir de quoi se déploie l'avenir et le passé pour un sujet qui est inquiet de lui-même parce qu'il doit décider, cela veut dire que le présent est absolu au sens où il est unique, irréversible et décisif. Et quand j'ai compris ça, je ne peux plus dire tout est relatif. Quand j'ai compris ça, j'ai compris que chaque instant est absolument précieux parce qu'il est unique et parce qu'il est décisif. Et que ça rigole pas. Et que il n'y a pas d'idée plus sotte que s'oublier dans l'instant, etc. Non, l'instant, c'est l'absolu même dans le temps. Puisque l'acte que je pose, même s'il est imprévisible, il va cependant devenir irréversible. Et sa singularité va, en quelque sorte, le charger d'une éternité. Car, dans le temps, on ne se rattrape pas. Et c'est précisément ce qui fait la réalité du présent. Imaginons que l'on puisse se rattraper. Alors, plus rien n'aurait d'importance. Tout pourrait être recommencé. C'est l'éternel retour nietzschéen. Parce qu'il soutient que tout devient, fait qu'au bout du compte, rien ne devient. Si tout devient, rien ne devient, tout revient. Et au bout du compte, plus rien n'a d'importance. Voilà pourquoi Kierkegaard pouvait dire que l'instant est un atome d'éternité. Ah, tiens, je parlais des sujets de Bach. À la grecque, j'ai eu science et philosophie. Bon, ben, au Bach, j'ai eu l'instant est-il un atome d'éternité ? C'est un peu plus sérieux. Et pour rassurer les étudiants parmi vous, à l'époque, j'ignorais complètement que la citation fut de Kierkegaard. Et j'ai rendu ma copie en avance d'une très mauvaise note, parce que j'étais pressé de voir celle qui est devenue ma femme. Ici présente, ou pas. Bien. Donc la décision est donc faite de prévoyance probabilitaire, de l'assomption d'une certaine logique du monde, ce qui nous permet de dire heureusement que le monde est déterminé. Et le fait que le monde soit déterminé, c'est précisément ce qui rend possible la liberté. Parce que le fait que le monde soit déterminé, c'est ce qui fait de l'instant à l'instant décisif. Et c'est ce qui me permet de faire d'esquisser donc des mouvements en vue de probabilité. J'évoquais le gardien de but, décidément mes comparaisons sont sportives ce soir. J'évoquais le gardien de but, regardez le gardien de but. À tout moment, les genoux fléchis, le buste en avant, l'œil vif, il esquisse une gerbe de mouvements possibles pour faire face à l'événement. Il est parfaitement présent. Il vaut mieux qu'il soit parfaitement présent. Et le gardien de but est parfaitement présent, bien qu'il ne sache rien de ce qui va arriver, mais qu'à tout moment, il se mette dans la disposition d'être capable de faire justement de l'événement une expérience. Et par le geste qui sera le sien. D'où cette dernière idée, l'acte est neuf, bien qu'il soit prévisible. Il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'il soit prévisible et qu'il soit neuf. Et donc, plutôt que même de parler d'un acte imprévisible, ce qui serait cauchemardesque, d'ailleurs, vous ne voudriez pas que vos amis soient imprévisibles. Oh, il est charmant, il est imprévisible, tu parles. Moi, je suis content que mes amis soient prévisibles. Il n'y aurait rien de pire que quelqu'un d'imprévisible. Ce serait cauchemardesque. Oui, donc ce qui convient de dire, ce n'est pas que l'acte est imprévisible, mais de dire qu'il est nouveau. Ce qui n'exclut pas du tout, qu'il soit prévisible, mais qui signifie que il fait naître une situation irréductible à la situation antérieure, que je ne pourrais, qui est irréversible. Vous voyez, la causalité mécanique, elle est réversible. Le processus qui fait que les boules de billard vont se heurter, je pourrais le décrire en sens inverse. Puisque dans le déterminisme, il n'y a pas de temps. Donc un monde déterministe, absolument déterministe, serait un monde totalement réversible, puisque je pourrais aller identiquement des causes aux effets et des effets aux causes. Et dans un système physique, je peux aller identiquement des causes aux effets et des effets aux causes. Ce qui n'est pas vrai dans une action. Et c'est pourquoi c'est très différent de mesurer le temps avec des systèmes physiques, horloge, montre, etc., et de mesurer le temps avec des actions. Et donc le temps mesuré, c'est ce que dit Bergson, il est rapporté à de l'espace. Parce que l'espace est réversible. Il est séquençable, reproductible, maîtrisable. Donc, mesurer, que ce soit mesurer le temps ou mesurer la température, c'est toujours rapporté à l'espace. Même mesurer l'intelligence. Il y a des gens qui mesurent l'intelligence, quand ils rapportent ça à l'espace, ils font des intelligences sommaires. Alors que l'irréversibilité du temps tient au fait qu'il est non pas le surgissement de l'imprévisible, mais le surgissement du nous. Une première chose nous permet de comprendre cette apparition du nouveau, et ça c'est ce que Lévinas explique dans un petit livre que vous pouvez lire à profit qui s'appelle « Le temps et l'autre ». C'est qu'il y a autrui. Enfin, autrui. Il y a l'autre. Et que, du fait de la présence de l'autre, on rentre justement dans un monde qui n'est pas réductible à nos prévisions calculées. Du fait de la présence de l'autre, tout peut se passer à tout moment. C'est d'ailleurs pourquoi je ne connais pas la phrase qui va suivre. Parce que d'une certaine manière, nous la faisons ensemble. Et la manière dont vous écoutez, la manière dont vous boudez, dont vous hochez la tête, dont vous souriez, dont vous dormez, nous permet d'être les simultanément, même si vous ne parlez pas pour l'instant, vous êtes simultanément les agents de ce que je suis en train de dire. Vous êtes à l'œuvre autant que moi. Et c'est la raison pour laquelle la manifestation de l'avenir, c'est la présence de l'autre. Là encore, j'évoquais tout à l'heure l'ennui, avec le pur écoulement du temps dans l'ennui. L'an dernier, j'avais entendu à la radio une promotion d'une organisation caritative, ou non, de la semaine de la solitude. La semaine de la solitude. Il y a des semaines de tout, et là c'était une semaine de la solitude. Et comment voulez-vous évoquer à la radio la semaine de la solitude? Un seul moyen, le tic-tac de l'horloge. Ce qui est la manière la plus forte de mettre en évidence que le temps n'est ouvert que par la présence de l'autre. Ah, effectivement, peut-être si l'autre n'était pas là, tout serait-il prévisible. D'ailleurs, le monde mécanique est un monde dont l'homme est absent, donc tout peut s'y penser prévisible. Et si j'introduis dans cet espace où tout est prévisible un petit bonhomme, alors tout d'un coup tout bascule. C'est ce que dit Sartre dans L'être et le néant. Et je ne peux plus du tout rapporter le temps et l'espace à des catégories simples et mesurables. Il surgit une autre liberté, un autre pôle de fécondité avec lequel donc il va falloir faire. L'avenir n'est donc pas écrit, il n'est pas comparable à la suite d'un processus mécanique. On pourrait suggérer, les mots n'ont pas la même stabilité, mais si on voulait leur donner plus de stabilité, on pourrait suggérer une différence entre l'avenir et le futur. On pourrait dire, le futur, c'est la succession telle qu'elle est prévisible et qui pourrait être ramenée par une prévision au passé. C'est ce que fait un entrepreneur qui fait des prévisions. L'avenir, lui, si on souligne qu'il est avènement, qu'il est événement, qu'il est surgissement, l'avenir vient, à ce moment-là, il ne sera pas simplement donc la prolongation calculée d'une suite logique. Donc, je disais que le déterminisme ramène le temps et de l'espace en prenant le point de vue de l'observateur, et c'est la raison pour laquelle le temps doit toujours être vu, enfin, si on veut le comprendre dans sa nouveauté, du point de vue de l'agent, et ajoutons même de l'agent qui n'est jamais seul. Car nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes pas devant un décor. Je ne suis pas un petit bonhomme placé devant un décor. Je suis avec d'autres hommes. Je suis toujours déjà avec d'autres hommes. Et c'est le propre, justement, de l'esprit que de tirer toujours plus et autre chose que les données antérieures. Avec Bergson, on pourra dire que le sujet, dans son acte, est source de création. On peut oser la métaphore de la création. Si on prend cette métaphore dans tout ce qu'elle suggère, c'est-à-dire un effet irréductible à ses ingrédients. Un effet irréductible aux causes qui le précèdent est tel que il faut bien que surgisse l'esprit pour qu'il soit donné plus et autre chose que les données antérieures. Qui est capable, à partir d'une information, qui est capable, à partir d'une situation, de sortir plus et autre chose que les données antérieures, appelons-le l'esprit. Vous pouvez l'appeler âme, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça veut dire que, en tout cas, nous ne sommes pas devant simplement l'analogie d'un processus physique. Écoutons Bergson dans l'évolution créatrice. Une comparaison facile et très parlante. Quand l'enfant s'amuse à reconstituer une image en assemblant les pièces d'un jeu de patience, ces cubes qui permettent de reconstituer les images, il y réussit de plus en plus vite à mesure qu'il s'exerce davantage. La reconstitution était d'ailleurs instantanée. L'enfant la trouvait toute faite quand il a ouvert la boîte. L'opération n'exige donc pas un temps déterminé, et même théoriquement, elle n'exige aucun temps. C'est que le résultat nous en est donné. Je commente. Si le résultat était absolument conforme aux données, le temps serait inutile. Et on pourrait même envisager d'accélérer le processus. Mais si le temps est réel, on ne peut pas accélérer le processus. Je peux accélérer un processus de fabrication, mais je ne peux pas accélérer une action. La fabrication, elle existe dans un process réductible aux données. Si j'améliore les données, le process ira plus vite. L'action, elle, au contraire, elle est son propre déploiement. Je ne peux pas accélérer la maturation d'un enfant. Je peux difficilement accélérer la pousse d'une salade. Et je ne peux certainement pas accélérer l'exécution d'un concert. Et j'imagine pas un chef d'orchestre qui dit « Ouais, ce soir, j'ai été vachement bon, j'ai fait 2 concerts en 1 ». Impossible. Et on ne peut même pas imaginer qu'un peintre se dise « Ouais, je fais 3 tableaux à l'heure, je suis vachement bon ». Non. Il ne sait pas bien où il va. Le peintre a bien une idée de ce qu'il fait, mais le peintre n'associe pas des cubes préalablement disposés dans la boîte. L'image du tableau n'est pas préalablement dans la boîte. Elle va advenir peu à peu dans le geste dont le peintre ne peut absolument pas faire l'économie. Et son tableau sera la trace de ce geste. Qui d'ailleurs est un geste qui est sans cesse à redécouvrir, car le tableau n'est jamais achevé, même lorsque le peintre le signe, puisque nous sommes encore en train de le regarder et d'en renouveler le sens. Donc quand l'enfant sort le jeu de la boîte, le résultat est donné. C'est que l'image est créée déjà et que pour l'obtenir, il suffit d'un travail de recomposition et de réarrangement. Travail qu'on peut supposer allant de plus en plus vite et même infiniment vite, au point d'être instantané. Mais pour l'artiste qui crée une image en la tirant du fond de son âme, le temps n'est plus un accessoire. Ce n'est pas un intervalle qu'on peut allonger ou raccourcir sans en modifier le contenu. La durée de son travail fait partie intégrante de son travail. La contracter ou la dilater serait modifier à la fois l'évolution psychologique qui la remplit et l'invention qui en est le terme. Le temps de l'invention ne fait qu'un avec l'invention même. Enfin, c'est un processus vital, quelque chose comme la maturation d'une idée. Et on reprend le même exemple. Le peintre est devant sa toile, les couleurs sont sur sa palette, le modèle pose devant lui. Nous voyons tout cela, le peintre, les couleurs, le modèle, et nous connaissons aussi la manière du peintre. Prévoyons-nous, cependant, ce qui apparaîtra sur la toile? Nous possédons les éléments du problème, nous savons d'une connaissance abstraite comment il sera résolu, car le portrait ressemblera sûrement au modèle ou sûrement aussi à l'artiste. Mais la solution concrète apporte avec elle cet imprévisible rien qui est le tout de l'œuvre d'art. Et c'est ce rien qui prend du temps. Néant de matière, il se crée lui-même comme forme. Alors, on peut comprendre encore d'une autre manière pourquoi le temps est dit irréversible et pourquoi nous éprouvons dans l'action, pas dans la fabrication. Dans la fabrication, le temps est réversible. Dans l'action, nous éprouvons le temps comme irréversible. Et on est en train de bien comprendre pourquoi. C'est que le rien ne peut être ralenti ou accéléré dans le processus, et d'autre part, le sujet, dans un moment successif, ne sera déjà plus le même. La deuxième fois est la deuxième fois. Elle n'est pas la première fois. Et il suffit qu'elle soit la deuxième fois pour qu'elle ne soit pas rigoureusement identique. C'est la raison pour laquelle on peut faire... Moi, il m'est arrivé de faire... par exemple, il y a des morceaux là, de cette conférence que j'ai déjà exposée. Peut-être les ai-je déjà exposés 60 fois. Mais ils m'apparaissent toujours aussi neufs. Simplement parce que, précisément, ils sont riches de toutes les occurrences antérieures. Arrive donc le phénomène fondamental de la mémoire. Et c'est par le phénomène de la mémoire que le temps est irréversible. C'est le problème, précisément, de Rantanplan. Car, du fait de la mémoire, la deuxième fois ne peut absolument pas être identique à la première. Et la troisième fois non plus, et la quatrième fois non plus. Et voilà pourquoi des amants ou des époux peuvent s'étreindre mille fois, que ce soit toujours la première fois. Malheur à eux, s'ils trouvent le temps un peu long, c'est que précisément, ils ne voient plus que l'écoulement du temps, pas rempli de présence. Quand on dit que la présence de l'autre, c'est l'avenir même, c'est précisément donc ce qui fait que le même geste, répété un nombre indéfiniment de fois, peut être investi de la même présence. Mettre la table, dire bonjour à la dame, s'embrasser... Il n'y a pas besoin de chercher de l'exotique, il suffit d'être attentif. Pour qui serait attentif? Chaque présent est nouveau. Pour qui est attentif? Chaque présent est absolu. Et c'est ce qui en fait précisément donc le caractère de création. On peut donc conclure assez paisiblement. Heureusement que le monde est déterminé, puisque cela permet d'y avoir une conduite sensée. Heureusement que l'acte libre est prévisible, au sens où il est motivé, riche d'expérience, dans un monde où il y a des lois. Et la présence de ces lois n'est pas du tout ce qui rend impossible la liberté, c'est au contraire ce qui la permet. En effet, on le sait bien, on en est gêné même, la forme la plus claire de la liberté n'est pas le choix. Si la forme la plus claire de la liberté était le choix, cela voudrait dire que nous ne sommes libres qu'à condition d'être ignorants. Car à mesure que nous savons, le choix apparaît de moins en moins ouvert. Non, la mesure de la liberté, ce n'est pas le choix, c'est la possibilité de se reconnaître dans son acte. Et cette possibilité de se reconnaître dans son acte est sans doute d'autant plus forte que cet acte même serait unique. Et allons même, à la rigueur, répéter, pourvu que le sujet puisse le faire sien, sans avoir besoin de se distraire avec du nouveau, du curieux, de l'imprévisible. Et donc, je disais, voilà pourquoi donc l'imprévisible n'arrive qu'en rêve, et voilà pourquoi les récits des rêves sont ennuyeux. Le sujet, qui est le point source du présent, est donc en mesure de faire le récit de lui-même. Est sujet celui qui peut faire le récit de lui-même. Ce récit, il est toujours une manière de reconduire, c'est ce que je disais, l'événement à sa contingence. et reconduisant l'événement à sa contingence, de se remettre à chaque fois dans ce qu'il a de radicalement nouveau, fut-il répété indéfiniment. C'est la conclusion qui me permet de me livrer à vos perplexités, questions, objections. Sans doute, un certain nombre de choses n'ont-elles pas été comprises, parce que j'ai parfois été rapide, donc si j'ai été obscur, je suis en faute.
S'il vous plaît, je ne suis pas certain d'avoir compris l'absolu chez Merleau-Ponty. C'est au sens où la décision fait cet instant aucun sans lien. Je me trompe.
Alors non, ça n'est pas... Oui, vous avez raison. Normalement, absolu signifie sans lien. Il n'est pas lié. Ça n'est pas en ce sens qu'il l'entend, puisque, au contraire, il insiste sur le fait que cet instant n'est pas surgi de nulle part. Mais il est absolu en ce qu'il est unique. Et unique du fait de son irréversibilité. Alors que si je dis donc que tout est relatif, cela signifierait que plus rien n'est décisif. Donc je pense qu'on pourrait traduire absolu par décisif. Je ne sais pas ce qu'en penserait Merleau-Ponty, mais en tout cas certainement pas au sens où il serait isolé. D'ailleurs, lorsque Kierkegaard dit que l'instant est un atome d'éternité, il prend bien garde de ne pas confondre l'instant avec une petite séquence du temps. Car l'instant comme petite séquence du temps est un atome du temps. Et donc un instant, ce n'est pas une seconde, ce n'est pas le carpe diem d'un truc sans lendemain. Ce qui fait au contraire de l'instant un atome d'éternité, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Rien de plus concret. Je prends un exemple concret, Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'éternité ? C'est la situation d'un être tel qu'il n'y a pas en lui d'écart entre ce qu'il est et ce qu'il a à être. Il n'y a pas en lui de réserve de possibilités, de nostalgie ou de projet. J'ai insisté sur le fait que le temps, c'est la manière dont un sujet qui s'éprouve lui-même comme une question se rapporte à soi. Donc le temps, c'est le rapport à soi d'un sujet qui s'éprouve comme une question. Et donc d'un sujet qui a à être, pour qui il y a un écart entre son essence et son existence. L'absolu, c'est la situation d'un être pour qui il n'y aurait pas d'écart entre son essence et son existence. L'éternité. Donc l'éternité, ça n'est pas une durée très longue. L'éternité, c'est le rapport à soi d'un être en paix. Si le temps, c'est le rapport à soi d'un être inquiet, on dira l'éternité, c'est le rapport à soi d'un être en paix, qui peut dire maintenant, je peux mourir. Tout est accompli. Tiens, par exemple, mettons quelqu'un qui dise tout est accompli. À ce moment-là, il est dans l'intersection du temps et de l'éternité. Parce que le moment qu'il vit est dans sa plénitude. C'est pour ça que si on essaye d'imaginer Dieu, il faut l'imaginer comme celui qui est parfaitement présent. Parce qu'il n'y a pas en lui de rêve. Dieu ne rêve pas. Il n'y a pas en lui de mélancolie, de projet, de regret. Il ne se demande pas, vais-je écouter Rinsoël ou continuer à préparer ma conférence. Cette idée d'absolu, c'est vraiment une idée clé. C'est ce que dit Kierkegaard, si tout homme ne se rapporte pas à l'absolu, il n'y a rien à dire.
L'acte libre était imprévisible. Si l'acte libre se fait aider par son libre arbitre, et le libre arbitre se fait aider par sa raison, il devient prévisible.
Oui. C'est pour ça que j'ai terminé en disant voilà. On ne peut pas réduire la liberté au choix. C'est la réduction paresseuse. La liberté est au fond la connaissance de sa nécessité, si on pouvait parler dans ces termes. Le libre arbitre est à rigueur la forme de la liberté, mais il n'en est pas le contenu. Le contenu de la liberté, c'est l'adhésion au vrai. Et en ce sens, il n'y a de liberté que dans la plénitude de cette présence.
Pour revenir au temps, Einstein disait, quand on est dans un monde un chemin de fer, et celui qui est assis et celui qui marche dans l'allée n'a pas le même temps que celui qui est assis. Parce qu'il marche en avant ou en arrière, il n'a pas le même temps que celui qui est assis.
Oui, mais ça, c'est une différence qui tient à la différence de la place de l'observateur. Donc ça reste le problème de la mesure du temps selon les observateurs. Alors, je n'ai pas du tout abordé cette question, mais parce que ce que j'ai voulu opérer, c'est le décalement de la posture de l'observateur à celle de l'agent, du sujet. Et donc pour le sujet, donc le temps, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire le rapport à soi de quelqu'un qui se demande que où vais-je. Et qui se demande toujours avec d'autres. Car si nous étions seuls, il n'y aurait pas. Mais comme nous ne sommes jamais seuls, il y a du temps. La question, il est impossible d'y répondre car de l'extérieur, que vous me preniez la décision de Benoît XVI ou celle d'un gardien de but, de l'extérieur, il est impossible de juger de la liberté d'une décision. De l'extérieur, je peux. Mais. Que je prenne l'histoire de Benoît XVI ou que je prenne celle d'un gardien de but, si j'essaye d'en faire un récit, je serai obligé de le postuler libre. Car on ne raconte pas la vie d'une boule de billard. Donc au moment où je vais en faire un récit, fût-il le dernier des abrutis, je suis obligé de le postuler libre. Sinon, il n'y a pas de récit possible. Ce ne sera pas un récit, ce sera une démonstration. C'est la différence entre l'enchaînement d'une démonstration, où les conséquences sont les prémices, l'enchaînement d'une expérimentation, où les effets sont dans les causes, et l'enchaînement d'un récit, où la suite n'est pas tout entière contenue dans ce qui précède. Et donc, seul un romancier pourrait vous répondre si un romancier s'emparait du personnage de Benoît XVI comme romancier. Il faudrait à ce moment-là qu'il se mette à l'intérieur, en quelque sorte, de la démarche d'un pape qui présente sa démission. Donc je ne peux pas vous en dire plus.
À propos du récit, c'est l'explicitation de la citation de Kierkegaard, si si un être n'a pas de rapport avec l'absolu, il n'y a rien à dire.
Exactement. Si tout être n'a pas rapport à l'absolu, il n'y a rien à dire. Parce que son histoire devient complètement inintéressante. Mais on voit bien c'est pour ça qu'une œuvre d'art absurde est impossible. Parce que si j'écris un roman, si je fais un tableau, si j'écris un poème, si j'écris une musique ou n'importe quoi, je suis obligé à tout moment de me remettre dans l'émotion naissante qui a fait surgir une liberté. Il n'y a pas d'art de l'absurde. À part adada, 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 mais ça ne va pas loin. Grand emploi. Je veux bien vous répondre sur grand emploi. Allez.
Vous avez dit que le temps pouvait le mesurer que par rapport à l'autre, mais si on prend le cas d'un individu qui vit sur une île déserte, par rapport à la nature, il va pouvoir voir l'évolution de celle-ci et enfin voir l'écoulement du temps. Donc il n'y aura pas vraiment.
C'est pas sûr. Alors, mais je réponds. Merci de cette question parce que ça prouve qu'il y a des choses que je n'ai pas assez bien expliquées. Le temps mesuré, le temps conçu comme une suite séquençable, réversible, etc. On le mesure avec des choses, avec des process. Un sablier, une clepsydre, une horloge, la rotation de la Terre, etc. Donc on mesure le mouvement des choses. C'est comme ça qu'Aristote définit le temps. Mesure du mouvement des choses. Mais la mesure du mouvement des choses, c'est ce qui concerne le temps calculable. En revanche, le temps de la symphonie, le temps de la conférence, le temps de la phrase, le temps de la rencontre, lui, il n'est pas séquençable. Parce que chaque chose dans l'action, c'est pour ça que j'ai insisté sur la différence entre produire et agir. Je ne sais pas si vous voyez bien cette différence, c'est une différence absolument essentielle, qui est exprimée par, entre autres par Aristote dans la distinction entre poiesis et praxis. La production débouche sur un objet, l'action, elle aboutit à au déploiement d'un sujet. Donc c'est la raison pour laquelle je peux faire une chose, mais je ne peux pas agir une chose. Ça se comprend bien. Je peux faire une chaussure, je ne peux pas agir une chaussure. Donc l'action est intransitive, alors que la production est transitive. Donc, on va mesurer du temps sur des choses. Alors, votre naufragé, il va pouvoir mesurer le temps sur les choses, pourvu qu'il y ait des saisons sur son île. Il va pouvoir mesurer la succession des saisons en les rapportant à des choses. Mais est-ce que ça lui suffira? Probablement pas. Parce que s'il était vraiment dans une solitude radicale, au fond, il n'aurait plus beaucoup de raisons d'aller à gauche ou à droite, de dormir ou de travailler, marcher ou de se coucher. Tout deviendrait indifférent. Et c'est pourquoi le temps vécu, lui, qui se rapporte à l'action, ne se confond pas, bien qu'ils aient des intersections, avec le temps mesuré qui, lui, se rapporte à des choses. Alors, la description qu'en donne Michel Tournier dans Vendredi ou l'Inde du Pacifique, c'est pas mal. Parce que lorsque Michel Tournier essaye de réinventer le mythe de Robinson Crusoe, Robinson Crusoe, il le montre s'efforçant de se tenir dans son humanité par une mesure du temps. Alors, Robinson fait un calendrier avec des séquences régulières sur un poteau qu'il essaye de cocher, où il essaye de voir combien de jours il a passé. Seulement, Robinson étant tout seul, de temps en temps, son humanité s'effondre. Il ne sait pas combien de temps il a dormi. Et heureusement. Et puis, il va dans ce qu'il appelle la souille, où il se roule une bauge, une fange dans laquelle il se roule comme un porc sauvage, et où il abdique de son humanité, et là, il est dans une espèce de non-mesure du temps. Si vraiment quelqu'un était seul, la question même de la mesure du temps ne se poserait plus. Et probablement, et certainement, il s'effondrerait totalement. Puisque c'est la nécessité où nous sommes d'agir, et c'est cette nécessité où nous sommes d'agir qui nous vient de la sollicitation de l'autre, de l'appel de l'autre, qui fait que nous sommes dans un réel. J'ai expliqué, si j'étais seul, le monde se déréaliserait. C'est pour ça que je vous conseille de faire des économies, de ne plus acheter d'hallucinogènes. Vous n'en avez pas besoin, il suffit de rester seul. Et en restant seul suffisamment longtemps, vous basculerez dans l'impossibilité de différencier le réel et l'imaginaire. N'essayez pas trop. Parce que j'ai dit, le réel, c'est l'écart entre ma prévision et le geste. C'est ce qui fait l'épaisseur des choses, c'est ce qui fait la densité des choses. Or, cette densité des choses, cette épaisseur des choses, cette invisibilité des choses, Merleau-Ponty l'explique très bien, c'est la présence de l'autre. Cette face du bureau que je ne vois pas, c'est votre présence. Les objets ont une densité, ont une épaisseur, ont une profondeur, parce qu'il y a une altérité. C'est très bien décrit dans les portes de la perception de Aldous Huxley. Dans l'hallucination, il n'y a plus, c'est comme dans le rêve, il n'y a plus ni moi ni autre. Dans le rêve, il n'y a pas d'autre. La preuve que dans le rêve, il n'y a pas d'autre, c'est quand vous voyez un objet tomber, vous vous sentez tomber. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas d'autre que l'on rêve. C'est marrant, hein? C'est ce qu'explique Freud en disant le rêve est possible parce que le sommeil nous permet de donner congé au monde. Et une fois que j'ai donné congé au monde, à ce moment-là, effectivement, alors après, c'est d'autres hypothèses, mais en tout cas, je donne le congé à l'altérité dans le rêve. Nous ne pouvons pas rêver à deux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle jamais personne n'a interprété un rêve. Même pas Freud. Parce que ce qu'on interprète, c'est déjà un récit de rêve. Quand vous racontez votre rêve, vous savez déjà que vous le maquillez. Rien que quand vous dites « Et alors ?», vous savez que c'est faux. Vous lui donnez déjà une succession temporelle qu'il n'a pas. Et qui ne tient qu'à la nécessité du récit. Mais qui n'était pas du tout celle du rêve. Donc voilà, votre homme seul sur une île, il y a fort à parier que son humanité s'effondrerait et que sans doute le premier pan de son humanité qui s'effondrerait, ça serait la mesure du temps. On peut l'anticiper, moi je ne me mêle pas d'une interprétation, simplement sur le plan symbolique, je ne dis pas que c'est l'explication, hein, mais dans la vie du vieillard. Qui, au fond, se trouverait seul, sans projet, sans regret. S'il n'a pas de projet, il n'a plus à interroger le passé. S'il est seul, il n'a plus de rendez-vous. Et ce dont il est menacé et qui nous donne cette impression d'une invasion déterminée du passé, c'est que si vraiment un être était seul, il ne pourrait plus du tout investir le temps. Enfin, moi, je trouve ça très beau. En tout cas, ça m'éclaire. Donc, il y a au moins qu'il y en ait un qui soit content. Autant que ce soit moi. Alors, déjà, il faudrait distinguer donc la solitude et l'isolement. Et donc, un isolement volontaire n'est pas forcément une solitude. Et l'ermite ne peut vivre son érémitisme comme un signe de communion. Sinon, il devient fou. D'ailleurs, ça arrive. Voilà, je vous remercie. Notre prochain rendez-vous, c'est avec Raphaël Garrigue sur...
Excusez-moi.
On ne sait pas la phrase.
A-t-on des devoirs envers soi-même? Je réfléchissais à ce que vous disiez.
A-t-on des devoirs envers soi-même?
A-t-on des devoirs envers soi-même?